Brume 90.7, dernier entretien Confluence Cinéma de la saison avec messieurs Raphaël Lorenzo et Hakim Fdaouche. Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Le temps est passé vite.
Et ouais, cette année a filé une nouvelle fois. Bon, bah, on va faire une belle dernière émission. Alors,
on va essayer.
On a pas mal de choses au programme. Alors qu'est-ce que vous avez vu de beau cette semaine ?
Alors, on a vu tous les deux un film expérimental, un OVNI, on peut le dire.
C'est le bon terme.
Under the Skin, avec Scarlett Johansson dans un rôle à laquelle on n'aurait jamais cru.
Quoique,
un alien un peu. Hein.
Ouais, non, mais c'est pas ça. C'est surtout la voir jouer dans un pétlin paumé de la campagne écossaise. Enfin, bon, voilà, c'est Scarlett Johansson chez Ken Loach. Donc, c'est ça, c'est assez étonnant. Pour ma part, j'ai vu un film policier, un thriller chinois qui a été récompensé de plusieurs prix au dernier festival de Berlin qui s'appelle Black Coal. Black Coal en anglais, c'est le charbon. Et ça a une grande signification en ce film.
Et Raphaël, de ton côté, t'es allé voir
Le dernier film de Terry Gilliam qu'on n'avait pas vu sur grand écran depuis l'Imaginarium de Dr. Parnassus.
Donc depuis 2009.
Ouais, c'est ça. Donc ça commence à dater.
Ouais, 2009.
Il y a eu plein de projets, évidemment, comme d'habitude, sur le feu qui n'ont pas vu le jour. Et il revient donc avec un film qui est dans la veine de Brésil.
Allez, bah écoute, on te laisse ouvrir l'émission avec ce film-là.
Alors oui, Terry Gilliam, alors on le connaît bien évidemment, avec son imaginaire assez fantastique, peuplé de rêves, de technocrates, de bureaucrates. Et là, il nous revient avec un film vraiment dans sa pure veine. Hein. Un film qui met en scène Christoph Waltz, il joue, si je ne m'abuse, Cohen, mais tout le monde l'appelle Queen dans le film. Un bureaucrate pur jus qui ne vit que pour son travail. Une sorte de multinationale gérée par Matt Damon. D'ailleurs, Matt Damon, il a un look mais hallucinant. Il a les cheveux blancs, des costumes zébrés. Il est très, très drôle dedans. Et il travaille pour lui et son patron. On va lui demander... puisqu'il rêve de travailler chez lui, hein, dans une église désaffectée, de travailler uniquement chez lui, il lui demande de trouver en fait, la réponse au théorème zéro, d'où le titre du film, hein, le zéro théorème, qui en fait, explique le sens de la vie. Gilliam, comme je vous l'ai dit, on ne l'a pas vu depuis très longtemps, il a travaillé une fois de plus sur son projet qui va enfin concrétiser, qui est l'homme qui voulait tuer Don Quichotte. Il a un peu décalé son projet par rapport en fait, au retour des Monty Python sur scène, qui se passe en 2015 à Londres, ça a été assailli, donc il travaille exclusivement ces temps-ci sur la pièce des Monty Python, sur aussi le film, un dessin animé avec aussi Simon Pegg qui fera une voix dans le prochain film des Monty Python. Et donc là, il nous livre un film qui a été projeté, je ne m'abuse, à Venise en septembre dernier, hein, et qui a fait quand même pas mal le tour des festivals. Je crois qu'elle a été tournée en 2012, donc il tourne depuis quand même pas mal de temps. Et le film, moi, je trouve que voilà, on retrouve tous les thèmes de Terry Gilliam, comme je vous l'ai dit, la bureaucratie, l'aliénation par le travail, l'imaginaire, la quête de rêve, etc., qu'on retrouve dans ses principaux films. Mais voilà, malheureusement, Terry Gilliam, on sent qu'il a vieilli, qu'il a beaucoup moins de moyens qu'à l'époque. Il n'est plus du tout dans les années 80, années 90, au firmament, comme il pouvait être dans Brésil, L'Armée des Douze Singes, ou même dans des films comme Les Gasparano. Hein. Et là, il nous fait un film très cheap, finalement. On sent qu'il a un budget vraiment assez ridicule. Les effets spéciaux sont parfois très, très laids. On est dans une sorte de Londres, des Fils de l'Homme, un petit peu de Quaron, mais vraiment avec deux francs six sous, quoi. Donc bourré d'écrans de par-ci, par-là, de publicité qui part et compagnie. D'ailleurs, c'est très, très drôle. Dans le futur, il y a une secte de Batman, d'ailleurs. Il vénère Batman dans le futur. Et voilà, on retrouve Valls au milieu de tout ça, qui essaye de faire tout ce qu'il peut... Pour avoir un côté, un penchant philosophico fantastique, digne de Terry Gilliam, mais voilà, ça ne marche jamais, quoi. C'est ça le problème. On sent que Gilliam a plus grand chose à dire, c'est un peu le cas depuis quelques films. Hein. Parnassus, j'avais beaucoup aimé pour ma part, puisqu'il avait trouvé quelques trucs intelligents par rapport à la mort de Heath Ledger, mais ses films précédents, comme Les Frères Grimm, ou les films un petit peu de la fin des 90, comme Thailand, etc., c'était pas terrible, terrible.
Et on sent... Thailand, c'était bien. C'était un peu
hermétique.
C'est un film qui dévisse pas mal. Hein,
mais ouais, je sais, ouais.
C'était pas inintéressant, je trouvais.
Mais c'était pas le même niveau, tu vois, que ces grandes productions d'antan, quoi. C'est pas Munchausen, etc., quoi. Et ouais. Là, c'est un peu le problème. On sent que c'est un peu comme Cronenberg ou Argento. Ils arrivent vraiment au bout du bout, tous ces artistes. Mais au moins, Gilliam...
Pour Cronenberg, on n'est pas d'accord. Je te laisserai pas dire ça.
Ouais, mais bon. Mais ça là, divise
pour...
beaucoup, Cronenberg.
Mais pour ce coup-là, Terry Gilliam n'a pas eu d'emmerde sur le tournage, comme il a pu l'avoir sur Don Quichotte, ou un acteur qui décède...
Ce qui est peut-être aussi un problème, parce que mine de rien, Gilliam, il arrive toujours à trouver des trucs justement par rapport à ses problèmes. Mmh. Et là, on sent trop pépère, quoi, c'est ça le truc. Et les acteurs sont très bons, par contre, tu vois, t'as Christoph Waltz, il fait vraiment un numéro, une sorte de moine, un homme qui est prêt à tout pour sa cause, qui est très dans la foi, mais qui cherche vraiment un but à son existence. Et le propos du film, du coup, Bah, il enfonce des portes ouvertes, quoi. Au fond, c'est le sens de la vie, il n'y en a pas. On est dans le chaos, donc du coup, autant l'apprécier, ce chaos, et autant partir dans l'imaginaire, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc qui est assez facile et qu'on avait déjà vu avant. C'est assez dommage parce que Guillaume, moi, je pense qu'il a encore des choses à dire, encore des choses à prouver, et j'attends vivement son Don Quichotte qui va tourner, donc après toute sa tournée avec les Monty Python, là, en 2015, il a annoncé, là, c'est officiel, c'est John Hurt qui va jouer, donc, Don Quichotte.
D'ailleurs, je ne sais plus qui de la troupe des Monty Python a dit ça en conférence de presse, à savoir pourquoi ils revenaient sur le devant de la scène.
Oui, hein. Oui.
Bah, ils avaient besoin d'argent pour payer leurs impôts.
C'est pour le pognon, oui.
Voilà, et au moins ils ont l'honnêteté de le dire.
Ouais. Mais les Monty Python, là, ils font parler d'eux, puisque John Cleese a donné une interview hier soir, je crois, dans un truc américain, où il balance pas mal sur les James Bond aussi. Donc là, ils se lâchent tous, les Monty Python. Et moi, je dis tant mieux, parce que là, ils reviennent sur le devant de la scène tous ensemble. Là, je crois qu'on va bien se marrer, quoi.
On verra.
Alors, Hakim, de ton côté, tu es allé voir aussi...
Oui, je suis allé voir un autre film qui passe actuellement à l'UGC Confluence et au Pathé Bellecourt. Je trouve ça étonnant d'ailleurs que ce film ne soit pas programmé dans un cinéma comme le Comédia, parce que c'est un film qui a eu l'ours d'argent, je crois. Je crois l'ours d'argent à Berlin et un prix d'interprétation masculine pour son acteur principal. C'est un thriller chinois réalisé par un metteur en scène qui s'appelle Diao Yinan, qui a déjà réalisé deux autres films auparavant et dont j'ignorais totalement l'existence jusqu'à ce que je me procure le dernier positif de ce mois, qui met d'ailleurs le film en couverture. Le film commence en 1999. On suit le parcours d'un inspecteur de police qui est en instant de divorce et qui va commencer une enquête suite à la découverte de différents membres humains dans différentes usines de charbon dans cette région de la Chine qui s'appelle la Mandchourie, qui est une région de la Chine qui se trouve au nord-est, hein, à côté entre la Russie et la Corée du Nord. On est en 99, il fait très chaud, c'est la canicule. L'enquête va mener ce personnage vers une jeune femme qui travaille dans une blanchisserie et va ensuite l'amener dans un salon de coiffure assez original avec une déco, on peut le dire, originale et qui va tourner au massacre. Ensuite, à partir de ce moment-là, va y avoir une énorme ellipse. Donc, ce n'est pas l'ellipse de 2001, hein, c'est une ellipse de 5 ans. On va arriver en 2004 avec cette fois-ci un tour de mise en scène assez magistral. On voit donc cet inspecteur rouler dans sa voiture avec son adjoint dans un tunnel. Donc, on a le champ et le contre-champ, c'est la sortie de la voiture, enfin du tunnel. Et on se rend compte que le temps a complètement changé. On est en hiver et là, en gros, il y a marqué 2004. Et là, la caméra effectue une rotation. On comprend que là, on est dans une vue subjective. Et c'est la vue subjective d'une personne qui fait de la moto, qui s'arrête sur le bas-côté. Et on retrouve qui ? On retrouve notre inspecteur qui, 4 ans plus tard, est devenu beaucoup plus gros, est devenu alcoolique et n'est plus inspecteur. Et il est gardien dans une usine. Et là, l'enquête va reprendre 5 ans plus tard quand deux autres cas de corps décomposés à travers des mines de charbon vont être retrouvés. Et là, l'enquête va reprendre, mais dans un contexte un peu plus différent. Là, ce n'est plus vraiment un inspecteur, c'est un privé. Et là, également, cette mystérieuse femme qui n'est pas vraiment une femme fatale, hein, mais qui en a l'air, mine de rien, à travers ses apparences assez gentillette, assez timide, va se retrouver encore une fois au milieu de cette affaire. Surtout que au départ, elle était la femme de la première victime qui a été retrouvée démembrée. Alors, je ne vais pas en dire plus. C'est un film assez enragé, comme il en existe de plus en plus derniers temps dans le cinéma chinois. Hein. Il y avait entre autres Touch of Sin qu'on avait vu l'année dernière, qu'on n'avait pas apprécié à sa juste valeur.
Très social, d'ailleurs.
C'était le premier film qu'on avait vu à Cannes l'année dernière, on avait moyennement apprécié. Après, il y a eu tout un rouage médiatique qui a eu une énorme... Il y a eu le prix du scénario, il y a eu de très bonnes critiques. Et c'est un film que j'aimerais vraiment revoir pour avoir une deuxième vision, parce que je pense que je suis passé à côté de quelque chose. En tout cas, Black Hole, c'est vraiment un film fait par un metteur en scène qui vient de cette région assez... pour moi, qui était inconnue, qui est assez... On sent qu'elle vient d'un autre temps. On est loin de Shanghai, on est loin de ces grosses métropoles chinoises. On est vraiment dans une ville qui appartient à un temps un peu révolu, je dirais pas moyenâgeux, mais vraiment le début du XXe siècle. Et ce metteur en scène-là, qui bien sûr a une énorme culture cinématographique et fait des études de cinéma et qui aime beaucoup le genre policier, s'est inspiré justement des romans de Chandler, s'est inspiré d'Hitchcock et surtout inspiré du Faucon Maltais pour on va dire digérer ses références et les incorporer dans ce monde qu'il connaît, à savoir cette région de la Chine reclue. Et ça donne vraiment naissance à des à des décors assez fabuleux, éclairés par des couleurs assez fluorescentes qu'on a un peu retrouvé dans le cinéma de Refn. C'est assez glacial, justement. Au début, on commence en 99, c'est l'été, et tout le reste de l'action qui va prendre une bonne heure du film se déroulera en 2004, en plein hiver.
Détective chinois,
il fait très froid. Ah, j'y ai pas pensé.
Oui, bah, j'y ai pas pensé. Deux enquêtes sur deux temporalités et plus la campagne, c'est ça ce que tu viens de dire?
Comment ? Ça se passe dans la campagne, voilà, oui, ça se passe. J'avais pas pensé, effectivement. Mais voilà, c'est plus le côté social qui ressort, surtout qu'on se rend compte que, voilà, c'est en Chine, notamment dans cette région de ce pays, la corruption est omniprésente. Le clivage entre les différentes classes sociales fait beaucoup de dégâts. Et je vais pas en dire plus parce que même si on sent très rapidement qui est le responsable de ces actes, il y a un dénouement à la fin assez beau, assez poétique, qui vraiment tire le film vers le haut et qui fait que pour moi c'est vraiment une très belle réussite. Et pendant très longtemps, le cinéma chinois était vraiment dans l'ombre du cinéma hongkongais, qui durant les années 80-90 explosait grâce à ses metteurs en scène comme Choyard, John Woo, etc. Et là, depuis que le cinéma hongkongais est malheureusement soumis à pas la censure chinoise, mais est obligé d'édulcorer ses sujets pour plaire au public chinois, il y a un petit cinéma indépendant chinois qui ose des choses, ose se battre contre la censure. Et même Zhang Jiski, le réalisateur de Touch of Sin, a vu ses films censurés. D'ailleurs, Touch of Sin n'a pas été diffusé en Chine. Et Diao Winan, fait partie de ces metteurs en scène qui, avec une culture bien forgée, avec des références occidentales, arrive à renouveler ce genre, genre policier, avec son propre cinéma, avec sa propre vision de son pays. Et pour moi, je trouve ça vraiment fabuleux. On est vraiment dans une nouvelle ère du cinéma chinois. Et tant mieux, ça va sûrement nous livrer très prochainement de très, très bons films. En espérant qu'ils soient surtout diffusés en salle. Hein, parce que là, le film a eu un prix à Berlin.
On va écouter un premier morceau de musique. On se retrouve ensuite pour débattre un petit peu, pour un duel sur le film avec Scarlett Johansson.
Under the Skin, oui.
C'est parti.
Stop your time.
Alors, Confluence, dernière émission cinéma de l'année. Et donc, on va parler maintenant, vous allez débattre, messieurs, du film Under the Skin, c'est
on
ça?
On va finir en beauté, là, avec Scarlett Johansson. Hein.
Oui. Bah, écoute, je te laisse parler de ce film qui, finalement, a un scénario, mais alors simpliste.
Ah, oui. Ça tient sur un ticket de métro. Hein. Bah, c'est
ouais,
l'histoire.
Métro, on va dire
on peut dire que c'est l'histoire d'une entité. Pour pas trop griller le truc, une entité.
Non, d'une femme.
Qui ça, c'est ça qui c'est compliqué d'en parler, moi, je trouve, quand même. Bon, une créature, on va dire, une très belle créature, même puisque c'est Scarlett Johansson, qui tue des hommes à travers une drôle de méthode.
On sait même pas vraiment s'il les tue. Hein.
Ah, si, quoi, on voit des cadavres. On va dire qu'elle les dévitalise, elle prend leur énergie, c'est comme ça que je l'ai compris, en tout cas. Et du coup, on voit son péril comme ça, elle tue des hommes, elle séduit des hommes. Elle les aborde, elle les entraîne dans son antre. D'ailleurs, l'antre est, je trouve, mais une idée absolument géniale. C'est juste du noir. Je trouve cette idée géniale. Franchement, c'est au niveau esthétique, c'est tellement intelligent.
Bon, ça peut coûter très cher.
Oui, mais c'est intelligent, quoi. C'est comme dans Attack the Block, qui est aussi un petit film. Par exemple, pour les créateurs, c'était juste des dents, tu vois. Des fois, il faut trouver des idées aussi visuelles qui coûtent pas un rond, mais je trouve que ça marche parfaitement. Et elle les attire dans cet antre. Elle les noie, entre guillemets, puisque c'est une sorte de fluide, donc qui rappelle évidemment l'utérus de la femme. Ça fait très maternant. Et elle va se charger d'eux. Et le film va se diviser en deux parties, on pourrait dire. Elle va rencontrer un homme qui est atteint de la maladie d'Elephant Man. Donc, je ne sais pas comment on appelle ça, mais le visage est tout déformé.
Ou la maladie de Coluche dans Banzai.
Oui, exactement. Ouais. Et à partir de là, elle va trouver une sensibilité, on va dire. Elle va tenter d'être un peu plus humaine. En tout cas, elle va essayer de coucher de manière naturelle. Et à partir de là, de prédatrice, elle a passé à victime un peu. C'est comme ça que je le résume, moi.
Oui,
parce
c'est un peu ça, oui.
Je trouve que c'est pas facile, quand même. Moi, déjà, ce qu'il faut dire, tu l'as très bien dit tout à l'heure, c'est un ovni. C'est un film méga abstrait.
Non, pas un ovni, un ovni.
Oui, un ovni, pardon. Objet filmique non identifié. C'est un film très abstrait, qui est quasiment muet. Il n'y a pas beaucoup de dialogue. C'est très travaillé au niveau sonore. On est quasiment, tu l'as très très bien dit, par contre, dans l'expérimental. On est vraiment à deux doigts de ça. Et je
dans
trouve...
sa première partie.
Oui, surtout la première partie.
Le début, deuxième, non.
Le début commence comme un peu un film de Kubrick, un peu comme 2001 à la fin.
2001, pas que pas Kubrick, plutôt 2001.
2001, oui. Non, 2001. Mais 2001, attention, 2001. Mais 2001, c'est Kubrick. Avec des plans très abstraits, de ronds, de lumière blanche, de lumière
d'ailleurs,
noire.
D'ailleurs, on a déjà un objet un peu
phallique,
une forme phallique qui rentre
et puis aussi féminin.
Oui, bah donc en fait, c'est la naissance, tout simplement, des génériques.
Voilà, et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que dans le Terry Gilliam, il y a aussi l'œuf dans l'espace, juste avant celui que j'ai vu avant dans Zero Theorem. Donc ça fait un peu la jonction entre les deux. Et on voit un iris, tout ça, comme dans 2001. Après, plus tard dans le film, on voit des images rouges, bleues, etc., qui sont extrêmement travaillées. Et même la structure fait penser, je trouve, à Orange Mécanique. On passe du prédateur après à la victime. Et moi, je trouve ce film admirable. Au début, je m'attendais à un pur film, chiant, prétentieux, purement de festival. Tu vois un peu tous les tics intellectuels. Et au fur et à mesure du truc, on rentre dans un trip. C'est vraiment un truc hallucinogène, presque. Une sorte de transe. Et ce qui est génial, je trouve, c'est Scarlett Johansson qui après la voix dans Her... Dans Or, elle joue à la voix seulement. Là, elle joue un corps simplement, qui n'a aucune identité à part un corps. Et je trouve qu'à partir de là, elle incarne vraiment, c'est vraiment dans le sens même du mot même, incarnation, c'est en termes de peau, le symbole ultime de la femme, un fantasme absolu, je trouve. Et elle donne une épaisseur à ce truc qui est extraordinaire, justement, dans le côté maternisant, dans le côté lente, comme je t'ai dit tout à l'heure, le côté très... très féminin, très maternel, et je la trouve mais extraordinaire dans le film. Elle est super mutique du début à la fin. On l'attend pas du tout dans un rôle comme ça, et je trouve que c'est d'une intelligence rare que de lui avoir donné ce rôle. Elle est à la fois très très typée, un peu un corps très à l'ancienne, je trouve. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais entre Marilyn Monroe et Louise Brooks, tu vois un petit peu dans le film très 70 ouais. aussi. Et moi, j'ai sûr qu'il fait le film. Mais c'est un coup de cœur absolu.
Alors moi, j'ai vu ce film. Bon, je serais moins élogieux que toi. Je trouvais des trucs intéressants. C'est pas un coup de cœur. C'est pas le film de l'année pour moi pour l'instant. Il faut préciser que là-bas, c'était un roman de Michel Faber qui a été écrit. Enfin, c'est un projet qui a mis beaucoup de temps à se faire.
Oui, on le voit dans le film. Il y a le dernier film de d'Eddie Murphy qui est de 2011. Ouais,
et
qui passe.
Et le film est réalisé par un jeune clipiste. Je sais pas si on peut ça clipiste hein, qui a entre autres fait le clip avec Bruce Lee pour les vices.
Hein, il avait fait Birds.
Ça s'appelle Jonathan Glazer. Oui, voilà. Birds, voilà exactement. Que j'ai pas vu. J'ai vu. Je connais un extrait, mais c'est tout.
Ouais, moi aussi.
Et en fait, moi j'ai fait partir la salle au bout de 20 minutes.
D'ailleurs, il y a des hommes qui sont partis dans le.
Mine de rien, à partir du moment effectivement, il y a un déclic dans ce film. C'est à partir du moment où elle rencontre cet homme là. Qui a le visage déformé. Là, j'ai trouvé le truc intéressant parce que du coup, il Il interfère la situation classique de l'autostoppeur qui va attaquer le stoppeuse pour l'attaquer. Là, c'est une femme plutôt jolie qui va essayer d'inciter un homme étrange, monstrueux, à venir dans sa voiture. En général, c'est l'inverse.
C'est là, une très belle scène en plus. Oui,
très belle scène, très sensuelle. On est même gêné.
C'est un vrai malade, hein, c'est pas un maquillage.
Et à partir de cela, le film quitte cette grandeur, cet aspect un peu fantastique que je trouvais un petit peu lourd. Voilà, on va dire que c'est une extraterrestre. Mais dès qu'on voit le film, dès qu'on commence, dès les premières minutes, on comprend. On sait ce que c'est. Donc, du coup, la fin, ce petit twist à la fin, pour moi, donc une valeur parce qu'on sait
les parties. Surtout qu'on le savait par rapport au papier à droite à gauche.
Moi, je n'avais rien lu, moi, donc je me suis pris en pleine gueule. Et la deuxième partie, je trouvais ça intéressant parce que j'avais l'impression de voir Scarlett Johansson chez Ken Loach. Scarlett Johansson, cette grande star qui alterne blockbusters comme Avengers ou des films un peu plus intimistes. J'allais dire en l'occurrence un film j'ai pas de titre en tête, mais je l'ai vu dans des films beaucoup plus intimistes et beaucoup moins gros
qu'un Dahlia Noir ou Or, par exemple.
Voilà, exactement. Et j'ai trouvé ça assez intéressant de voir cette personne, cette grande star dans le milieu urbain, dans le milieu un peu industriel de cette Écosse recluse. Et finalement, à partir de là, on n'est plus dans le film fantastique, on est un peu dans l'investigation, on est un petit peu dans une sorte de mise en abyme. Voilà, cette star qui va dans le milieu ouvrier. Et je trouvais ça intéressant. Alors après, tout à l'heure, en tête, tu avais une petite théorie sur le fait que voilà, la mise en scène rappelait Terrence Malick, Kubrick. Bon,
dans
Kubrick,
la forme, attention.
Hein, Kubrick, dans les premières minutes, certes, parce qu'on pense beaucoup à 2001. Mais dans la deuxième partie, je prends un peu la défense de Malick pour une fois. Bon, certes, on filme Scarlett Johansson dans la forêt, mais je pense que Malick, c'est beaucoup mieux filmé que ça, les personnes dans la forêt. C'est un film qui n'a demandé pas beaucoup de moyens, qui est intelligemment filmé. Ouais. Et Scarlett Johansson, oui, tu parlais de son corps. Moi, j'ai trouvé que finalement, bon, c'était courageux d'elle de se montrer un peu à nu, parce qu'elle se montre vraiment à nu.
Elle est en full frontal.
Parce qu'elle est.
Messieurs, elle est en full frontal, il faut
presque, avec des jeux d'ombre quand même.
On
voit qu'elle a quand même quelques petites rondeurs. Hein. Elle joue un petit peu sur ses rondeurs. Ouais, elle n'a pas le corps parfait qu'elle pouvait avoir il y a au moins 5-6 ans. Et je trouvais que voilà, la performance de Scarlett Johansson est assez magistrale. Il faut être courageuse pour faire ce genre de truc.
Et puis c'est intelligent par rapport à ses précédents films aussi. Quoi. Mmh. Par rapport à Her, voilà, c'est génial. Voilà, elle se dématérialise complètement dans les deux films. Voilà. Quoi.
Par contre, on précise, c'est un film un peu extrême dans le sens où ça divise beaucoup.
Ah, oui, oui.
Moi, là, j'ai failli partir. Et on va dire que la deuxième partie rattrape le truc. C'est quelque chose d'intéressant. Voilà. Quand on aime Scarlett Johansson, je pense que ça va être un film pour les fans de Scarlett Johansson. Plus que voilà. Le film fantastique, ou alors ce que j'ai un peu lu,
ça aurait pu être, ça aurait pu être un gros Z hein, quand même, parce qu'une extraterrestre qui bouffe des mecs pour se régénérer, ça aurait pu être un gros film Z. Hein.
C'est vrai qu'il y a des bons échos quand même. Enfin, moi, j'ai pas vu le film, mais de ce que j'ai entendu, même dans la presse assez intello, enfin, voilà, c'est quand même plutôt petit
puis,
coup.
Ce qui est très intéressant, justement, c'est quand elle rencontre l'homme difforme, ça lui renvoie justement sa propre inhumanité. Quoi. Et ça qui est très intéressant, c'est une quête d'humanité, elle n'arrivera jamais finalement, elle se sentira toujours différente par rapport aux humains normaux. Et justement, toute la fin va sonner mais comme une sanction.
Il y a des zones d'ombre comme ce motard qui l'assume, d'ailleurs, qui va l'amener en vie.
Il y en a même plusieurs, oui, à un moment.
Oui, qui va récupérer son cadavre au début du film au bord d'une route et qui va l'amener dans cet univers blanc qui rappelle un peu le film de George Lucas. Et là, elle prend la forme de Scarlett Johansson. Mais il y a quand même quelques zones d'ombre. Qu'est-ce que fait ce motard? Qu'est-ce qu'il lui apporte? À la fin, on le voit plus. Il n'y a pas l'idée au moment où elle se fait attaquer à la fin. Bon, il y a quelques zones d'ombre, je trouve.
Moi, je trouve qu'il y a des très bonnes mises en scène, comme justement le plein cintage, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, où les hommes pénètrent, où toi, deux hommes, justement, nus, ils se voient côte à côte, et il y en a un qui disparaît, c'est juste une peau. Et je trouve que tout le propos du film, c'est ça, c'est l'incarnation, quoi, dans le sens léger du terme. Quoi.
D'accord, et bah écoutez, on va écouter un deuxième morceau de musique, et on se retrouve ensuite pour la dernière partie, où on va faire un petit peu un état des lieux des derniers mois cinématographiques, et aussi de surtout ce qui va se passer un petit peu cet été pour vous, chers auditeurs, sur les grands écrans.
Like a puzzle, hitman wearing muzzle. day, a special new band. I don't remember lying, I don't remember lying, I don't remember a word, but I don't care, I care, I really don't care. Did you see the drummer's head?
Troisième partie de ce dernier Confluence Cinéma de l'année. Et nous allons parler, bon, on peut faire tout d'abord un petit retour, un petit peu messieurs, cette année. Alors, un petit peu comme ça, à la va-vite, vos films marquants, vraiment, mais rapidement.
Ouais, j'avais fait une petite note et je les ai oubliés. Bref, moi, il y a un film qui m'a un petit peu déçu, c'est le diptyque de Lars von Trier, un infomaniaque. Bon.
Qui ressemble à Under the Skin, d'ailleurs, mais je t'en parlerai en dehors. Ouais.
On va parler des marquants, plutôt, parce qu'on n'a pas
marquant.
Beaucoup de temps.
Moi, j'ai été très surpris par le film des Dardenne, De jour et une nuit. Hein. C'est des metteurs en scène que j'apprécie de plus en plus, j'ai eu du mal au début pendant très longtemps et là j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal.
Moi je vais me faire taper sur les doigts puisque mes films marquants c'est pas des films marquants, c'est-à-dire que c'est des films en dehors du cinéma, c'est-à-dire un film DTV qui sort directement en DVD qui est Anchorman 2. Pour l'instant c'est mon film préféré de l'année, j'assume, avec Will Ferrell.
Oui, mais c'est pas étonnant quand on te connaît. Hein.
Ah mais franchement c'est la meilleure comédie américaine que j'ai vue depuis 10 ans et aussi un film qui n'est pas un film, True Detective, la série de télé. Qui est en numéro 2 de mon top pour l'instant.
Ouais, mais c'est un film, donc du coup, tu peux pas en parler.
Je savais que j'allais me faire taper sur les doigts, mais. Mais pour moi, il n'y a pas de trucs marquants cette année.
Le Budapest Grand Hotel.
Ça et Heure aussi.
Et Heure, voilà, exactement. Voilà. Bah voilà, t'as déjà cité pour moi les films les plus marquants, les
réussites
inconditionnelles de ce début d'année.
C'est pas la claque que j'ai eu sur True Detective ou encore même, quoi. Je le dis comme je le ressens, quoi. Mais pourtant, j'ai adoré les deux films, hein, le Wes Anderson et le Spike Jonze.
Donc voilà. Et donc, du coup, pour cet été, parce qu'effectivement, il faut préciser que c'est notre dernière émission, on va rattaquer en septembre, je crois, Maury, tu nous as parlé.
On va voir, septembre, octobre.
Et donc,
octobre,
du coup, il y a tout juillet et août.
Qu'est-ce qu'il y a de prévu, alors
il y a beaucoup, il y a quand même beaucoup de ressorties, hein, de classiques. Alors,
dans tous les genres, il y a quand même.
Alors, on parle déjà des sorties, des films qui sortent maintenant, pas des ressorties.
Bah alors, en blockbuster, là, qui vient de sortir aujourd'hui même, on ne l'a pas chroniqué, mais vous pouvez le voir, le nouveau film de Johnny Depp, Transcendance, réalisé par le chef opérateur de Christopher Nolan.
A fait un gros bide aux États-Unis.
Ouais,
deuxième gros bide consécutif de Johnny Depp.
Ouais. Donc le metteur en scène c'est Wally Pfeiffer, si je la prononce bien, avec Morgan Freeman, enfin tout un gros casting, Depp, etc. Sort aujourd'hui aussi, tu aurais pu le chroniquer, c'est étonnant que tu l'aies pas fait, le nouveau film de Takahata.
Ben oui, mais il fait 2h20 et j'ai eu pas le temps.
Ah d'accord. Voilà. Le conte de la princesse Kaguya, si je prononce bien.
Qui paraît qui est extraordinaire.
Qui est extraordinaire. Tout le monde le dit, effectivement. C'est pas que c'est un film d'animation extraordinaire, magnifique, un chef-d'œuvre, même j'ai entendu, de la part de certains critiques. La semaine prochaine, un film qui était à Cannes, d'animation, Dragon 2, film de DreamWorks aussi. Il avait des très bons échos à Cannes, bizarrement. Beaucoup de critiques ont dit du bien là-bas. Une comédie américaine, tiens, je vais aller la voir, c'est étonnant. Le nouveau film de Seth MacFarlane, avec qui on avait le droit à Ted, il y a 2-3 ans. Et là, il nous revient avec une parodie de western, donc avec un gros casting. Il y a Liam Neeson, il y a Charlize Theron, etc. Donc, à voir, pourquoi pas, un western comique. Le nouveau film, tu en parlais tout à l'heure, Hakim, de Ken Loach, que j'ai eu la chance de voir à Cannes, Jimmy's Hall, qui sort le même jour, la semaine prochaine, hein, le 2 juillet. un Ken Loach, on va dire mollasson, hein,
mollasson.
Voilà, du Ken Loach qui fait du Ken Loach, quoi, avec un début assez Woody Allen quand même, mais on y reviendra, je pense, quand même à la fin de l'année. Un film que tu attends, je crois, Hakim, Big Bad Wolves. Je sais pas si je le prononce bien, le film de Tarantino, là, film israélien.
Ah oui, oui, le fameux, soi-disant, meilleur film de l'année 2013.
Tu en parles depuis pas mal de temps de celui-là.
Oui, 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 ben ouais, il y a une page Facebook qui s'est créée, donc il y a plein de gens qui y vont, et il paraît que ouais, ça a l'air d'être pas mal. Attends de voir, parce que bon, des fois on est surpris avec Tarantino. J'ai beau aimer ses films, des fois je suis un peu en désaccord avec ses goûts cinématographiques.
Alors après, il y a toutes les conneries françaises, il y a Les Vacances du petit Nicolas aussi qui sort, il y a Transformers 4, le dernier Michael Bay, alors, qui dure 2h45 paraît-il, donc ça va être.
Bah, c'est la norme pour les films d'action américains.
Ça va faire bien mal à la tête.
Il y a des ressorties.
Il y a plein de ressorties.
Cutter's Way, hein, qui était sorti, ouais. Qui sort aujourd'hui, enfin qui est sorti officiellement aujourd'hui au point de vue national, mais qui sera au club dès la semaine prochaine. Parce que c'est un polar, un thriller, on va dire post-guerre du Vietnam.
C'est parano.
C'est parano, voilà. Et par un réalisateur tchèque qui s'appelle Ivan Passer, hein, qui était un ami, un compatriote de Miloš Forman.
Avec Jeff Bridges, le film.
Et le film est passé au Festival Lumière l'année dernière, j'ai loupé. Oh, oui. Y a une rétrospective Tati.
Ouais, tous les films de Tati ressortent. Je crois que c'est le 30 juillet que ça
sort. Je ne sais pas comment ça va être présenté, si par exemple, c'est le Comédia qui va les diffuser au compte-gouttes. Ils avaient déjà projeté l'année dernière Jour de fête.
Ça sent la
Il y avait Monsieur Hulot lumière, et ça sent la rétrospective Lumière pour le mois de septembre.
Vous n'avez pas le programme des plein airs, justement?
Ah oui, pour les plein air, oui, c'est autre chose. Oui. Alors, il y a L'Homme de Rio la semaine prochaine.
Ça commence demain.
Ah, génial.
Ouais.
L'Homme de Rio. Ouais. C'est place Ambroise Courtois, ouais. Soit à 22h, soit à 21h30. Donc, c'est en plein air. Alors, bien entendu, vu que c'est en plein air, il faut venir tôt pour avoir une place.
Tout dépend du temps aussi.
Et tout dépend du temps. Donc, il y a L'Homme de Rio.
La Folie des Grandeurs, oui. Happiness Therapy. Mm-hmm. Je me rappelle plus de tout.
Moi non plus.
J'ai un film italien, mais j'ai oublié lequel avec toi, Gassman. Ah, j'ai oublié.
Je sais que l'année dernière, il y avait un Choyark, donc Détective D'.
Détective 2 sort.
Détective 2 sort, donc c'est la préquelle, c'est vraiment la
jeunesse. Le 6 août, si vous l'attendez.
Détective D. Moi, je suis un inconditionnel de Choyark, je pense que les auditeurs de Brume l'ont compris. Il est passé au festival des émissions collectives en avril, je l'ai loupé, et donc du coup, j'aurais pu bien sûr le voir dans des conditions illégales, DivX, DVD import et tout ça, mais j'attends de le voir sur grand écran cet été, je pense que ça passera au Comédia.
D'ailleurs, le 6 août, il y a plein de trucs différents qui sortent le même jour. Il y a Lucy, encore avec Scarlett Johansson, la grosse connerie de Luc Besson qui peut être marrante.
Et ça, j'irai, Luc Besson qui filme Scarlett Johansson avec Choi Mi-sik,
ouais.
L'acteur d'Oldboy, Morgan Freeman dans des décors asiatiques. J'y vais.
Il y a Nos Pires Voisins, le nouveau Seth Rogen qui sort aussi, donc complètement différent, qui est quand même, d'après Jackie Goldberg qu'on a vu à Cannes, est vraiment très très drôle. Et La Palme d'Or, Winter Sleep qui sort le 6 août aussi. Donc,
buvez beaucoup de café avant le film.
Voilà, film turc de 3 heures dans l'année.
Mais qui parle beaucoup, hein, c'est très
la
bavard.
La solitude,
hein.
Etc.
Très bavard, attention. Hein.
Et puis après aussi, il y a aussi les blockbusters, il faut quand même en parler un petit peu. Il y a La Planète des Singes qui sort le 30 juillet, donc la suite de La Planète des Singes.
J'avais trouvé le premier moyen, mais les différentes affiches, les différentes bandes-annonces qui circulent un peu sur la toile me donnent envie. C'est surtout, moi j'avais un gros complexe par rapport à la motion capture, j'avais un peu du mal à avoir de la compassion et avoir un peu d'amour pour ces singes dépourvus d'humanité, parce que ce ne sont plus des comédiens qui interprètent les singes avec du vrai maquillage.
C'est la performance capture.
Et donc voilà, mais les images d'abondance m'ont vraiment donné envie.
Et Gary Oldman, l'un de tes dieux.
Et oui, effectivement.
Il jouera le méchant apparemment.
Ah, enfin.
Et Gary Oldman, il se lâche là. T'as vu, il soutient Mel Gibson, il soutient Alec Baldwin. J'aime bien ce qu'il a dit dans la presse là.
Ah, Alec Baldwin, il a des problèmes, hein.
Ouais, de problèmes d'homophobie, tout ça. J'expliquerai.
Ah, d'accord.
C'est un peu polémique. Mais sinon, en gros truc, aussi le nouveau Marvel qui sort, Les Gardiens de la Galaxie le 13 août.
Que tu iras voir, bien sûr.
C'est le seul que j'irai voir, parce qu'il y a Chris Pratt, que j'ai découvert, un acteur que j'aime beaucoup, et après j'arrête définitivement, je vous le dis. Après, la semaine d'après, le 20 août, il y a The Expendables 3 qui sort quand même, ça, on peut pas rater ça en tant que fan de Stallone.
Mais en espérant que ça soit pas mauvais. Hein.
Ah bah, c'était déjà le cas pour les deux premiers, mais on s'en
fout. Le premier était drôle.
Ah, mais mal torché quand même.
Et le 2, ça baisse un petit peu de. Non, moi j'aime beaucoup Stallone, je trouve que c'est un bon metteur en scène.
Ah, mais moi aussi, mais c'est pas lui qui réalise, là, attention. Hein.
Oui, je sais. Le premier, c'est lui qui l'a réalisé. Le deuxième, non. Donc on sentait qu'il y avait une petite baisse de tension au niveau de la mise en scène. Là, on va voir ce que ça va donner.
Il y a aussi Hercule, le nouveau film de The Rock.
Ah bon?
Avec Brett Ratner à la mise en scène, ça va être bien con, ça aussi.
Il devait réaliser le remake de Conan au départ.
Oui,
Hercule Conan.
J'ai vu le moment, c'est très très drôle. Hein. The Rock en Hercule, ça va être super, là, franchement.
Et il y a The Raid 2,
ouais,
la
The
suite
Raid 2.
De ce film
De Gareth Evans.
C'était, ouais. C'était quelle nationalité déjà?
Oui, cambodgienne, un truc comme ça.
Non, ça passait à Jakarta. Ah, quelle ascendance? Les Philippines, voilà.
Il sort le 23 juillet.
Et The Red, c'était quand même assez extraordinaire. C'était un film qui durait 2 heures avec un rythme assez haletant où pendant, le film fait 2 heures, il y a grosso modo 1h15 de scènes d'action non-stop. Il faut quand même tenir un rythme d'1h15. Et donc, du coup, l'intelligence du metteur en scène a été de justement varier les types d'arts martiaux. Et au final, bon, c'est encore un scénario classique. Enfin, je parle du premier, je n'ai pas vu le 2. C'était voilà, encore un peu la Die Hard. Voilà, c'est une grande tour prise en otage. Donc, du coup, il faut libérer les otages et capturer les méchants. Et voilà, à coup de tatane, de minchaku, de sabre. Et c'était vachement bien. Et donc, le 2, on verra si ça sera du même niveau.
Et pour finir l'été, il y a 2 films, on va dire, entre guillemets, d'auteurs. Il y a le nouveau film d'Olivier Assayas qui était super, que j'ai eu la chance de le voir à Cannes, Sils Maria, avec Juliette Binoche et Kristen Stewart. Un peu une sorte de Map to the Star, mais on réussit.
Se passe en montagne dans la neige.
Ouais, ouais.
Ah, ce sera bien de voir un petit.
C'est super.
Un petit film montagneux, un petit peu frileux pendant cette période.
Sur la création, sur les acteurs, etc. Et le dernier film de Denis Villeneuve qui avait fait Prisoners, s'appelle Enemy, oui. Avec Jake Gyllenhaal encore. Et d'après la bande-annonce que j'ai eu la chance de voir, ça fait très parano, très psychologique, encore une fois, avec une atmosphère toute particulière, encore très citadine, contrairement à Prisoners, et ça a l'air vraiment pas mal encore. Enfin, Denis Villeneuve, je crois qu'on va devoir le suivre dans les prochaines années.
Oui, déjà, Incendie, c'était bien, hein, ce film qu'il avait fait avant. Ça.
D'accord, messieurs, et bah, écoutez, c'est un beau programme cet été, il y aura finalement pas mal de choses.
Voilà, dans tous les genres.
Et puis bah, nous, on se retrouvera à la rentrée pour de nouvelles aventures cinématographiques.
Bien sûr.
On arrivera vite, bien sûr, à Lumière.
Almodovar.
Et voilà, quoi, Almodovar
enfin,
et compagnie.
Enfin, un truc spécial Almodovar, tiens.
Ah oui. Oui, ça mériterait.
Eh bien, chers auditeurs, à très bientôt et retrouvez les podcasts et nos aventures cinématographiques sur le site de Radio Brume.
Oui, bel été.
Bon été, bonnes vacances.